Bonsoir Tara Stegen.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il n'y aura pas de motion de censure de gauche déposée contre le gouvernement. Les frondeurs n'ont pas réussi leur pari. Il leur manque les voix de deux députés, analyse de Christine Moncla. L'audition du patron de la Société Générale devant le Sénat, Frédéric Oudéa, s'est défendu d'avoir menti sous serment en 2012, compte rendu de David Ravier. Dans cette édition, nous irons aussi au Brésil, où le Sénat doit enclencher sans doute aujourd'hui la procédure de destitution de Dilma Rousseff. Et puis nous irons à Cannes aussi pour l'ouverture du Festival International du Cinéma. 18h20 du Grain à Moudre avec vous Hervé Gardette.
Y a-t-il une extrême droite européenne? Nous allons discuter avec Jean-Yves Camus, Anaïs Voigilis et Dominique Régnier.
A tout à l'heure. Fin du suspense à gauche, il n'y aura pas de motion de censure contre le gouvernement. Les députés frondeurs n'ont pas réussi leur coup. On peut dire aussi avec une quasi-certitude que le gouvernement Valls ne tombera pas demain puisque les députés socialistes ne voteront pas la censure déposée par la droite. Bonsoir Christine Moncla.
Bonsoir Tara.
C'est la conséquence évidemment de l'arme du 49-3 dégainée hier par Manuel Valls pour faire passer la réforme du Code du travail. L'aile gauche du Parti socialiste espérait pouvoir déposer une motion de censure contre le gouvernement, mais elle doit finalement renoncer, Christine.
Et à deux voix près seulement, 56 députés de gauche étaient prêts à déposer leur propre motion. Il en fallait 58. Au moins, on aura essayé, déclarent les socialistes frondeurs à la sortie d'une réunion d'urgence qui aura mobilisé des socialistes, des écologistes, des communistes, des radicaux de gauche jusqu'à leur limite fixée à 16h35. Les deux voix socialistes manquantes sont autant un motif de frustration que d'encouragement. Chacun aura pris ses responsabilités, lance le frondeur Laurent Baumel à l'adresse implicite de ses camarades socialistes qui n'ont pas permis le dépôt d'une motion commune. Mais le groupe constate aussi qu'une opposition de gauche est bel et bien en train de prendre forme à l'Assemblée nationale. La liste des 56 signataires sera publiée dans la soirée avec un texte commun portant sur la loi travail. La motion de droite ne sort pas pour autant renforcée de cet épisode car seuls les députés Front de Gauche la voteront. Les socialistes, vous le disiez, estimant que c'est là une limite politique qu'ils ne franchiront pas. Et ce soir, le chef de file des socialistes à l'Assemblée, Bruno Le Roux, reste sur sa position. La ligne rouge eût été le dépôt d'une motion ou le vote de celle de la droite. Les frondeurs ne devraient donc pas être exclus du Parti socialiste. Cette menace aurait été par ailleurs plus facile à énoncer qu'à exécuter, car ce sont une trentaine de socialistes qui sont concernés, ce qui ferait autant de candidats à remplacer pour les prochaines législatives.
Merci beaucoup Christine Moncla. Le patron de la Société Générale affirme qu'il n'a jamais menti au Sénat en 2012. Frédéric Oudéa devait s'expliquer ce matin après les révélations des Panama Papers. Les journalistes d'investigation ont affirmé dans Le Monde, c'était début avril, que la Société Générale avait créé 979 sociétés offshore via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, mettant à jour un vaste système de fraude fiscale que le dirigeant actuel nie farouchement. En 2012, Frédéric Oudéa était déjà venu s'expliquer devant le Sénat. Il avait alors affirmé sous serment que sa banque avait fermé toutes ses implantations situées dans des paradis fiscaux, dont le Panama, bien sûr. Après les révélations du Monde, il est apparu que des sociétés écrans montées par la Société Générale existent bel et bien au Panama, d'où ces accusations à présent de faux témoignages. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Tara.
Vous étiez ce matin au Sénat où Frédéric Oudéa a nié tout mensonge. Alors question relativement simple, si on peut dire, le patron de la Société Générale s'est-il montré convaincant?
Oui, Frédéric Oudéa a pu prouver sa bonne foi en jouant sur des détails. Il est longuement revenu sur les révélations qui ont été faites dans l'affaire des Panama Papers et des 979 sociétés gérées par Mossack Fonseca pour le compte de la Société Générale. Il a voulu être le plus transparent possible sur les liens qui unissent la banque et les sociétés offshore.
Le nombre de sociétés patrimoniales offshore encore actives et immatriculées par Mossack Fonseca pour le compte de nos clients à la date du 30 mars 2016 est de 66. Dont 6 présentent la double caractéristique d'être immatriculés au Panama et de concerner des résidents fiscaux français au nombre au total de 9. Le nombre de ces sociétés actives a été divisé par près de 10 depuis 2009. Tous les bénéficiaires économiques finaux résidents fiscaux français et européens ont fait l'objet d'une vérification de conformité fiscale. Ces sociétés sont légales, mais l'utilisation mal encadrée peut poser problème.
En substance, la Société Générale a vous fournir des sociétés offshore pour les clients qui le veulent, mais elle ne les force pas à y cacher leur argent. Selon Frédéric Oudéa, la banque va même plus loin dans sa démarche responsable. Elle invite depuis 2013 ses clients qui ont ces sociétés offshore à se rapprocher du fisc pour être dans la légalité. Toutes ces activités sont donc faites dans une totale transparence fiscale, selon lui. Un discours qui a, semble-t-il, rassuré les sénateurs, à l'exception du communiste Éric Bocquet, qui souhaitait que le PDG de la Société Générale soit poursuivi. Mais à la fin de la séance, au vu des éléments apportés par Frédéric Oudéa, l'ancien président de la commission des finances Philippe Dominati a estimé que ça ne servait à rien de lancer une procédure de faux témoignage contre le PDG de la Société Générale.
Merci beaucoup David Ravier. Puisqu'on parle du Panama, hasard du calendrier sans doute, cet État vient avec quatre autres de s'engager à lutter contre la fraude fiscale. À compter de septembre 2018, le Panama va appliquer les normes exigées par l'OCDE et pratiquera donc l'échange automatique des informations fiscales avec d'autres pays. Est-ce une avancée suffisante ? Question posée tout à l'heure au professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris-10-Nanterre, Michel Aglietta.
Alors c'est une bonne chose en ce sens que pour pouvoir repérer que des pays accueillent des entreprises multinationales qui font de l'optimisation fiscale, voire de la fraude fiscale, il faut connaître une déclaration de ce que font ces entreprises dans ces pays-là. Aujourd'hui, les entreprises ne font qu'une déclaration consolidée sur l'ensemble de leurs comptes, alors que ce qui est demandé, c'est qu'ils donnent l'activité économique que cette entreprise y fait. Et si on révèle qu'il y a des profits énormes dans des lieux où il n'y a pas d'emploi, où l'entreprise emploie quelques personnes dans un bureau, il est clair que ça permet de déceler un certain nombre d'anomalies et permet ensuite de remonter plus haut. On peut penser que ce n'est pas suffisant parce que vous avez en fait des paradis fiscaux qui sont internes aux grands pays, notamment dans la zone euro avec le Luxembourg, avec l'Irlande, et tout ça n'a pas été jusqu'ici traité sérieusement. Là, c'est un problème d'harmonisation fiscale à l'intérieur de la zone euro. Et aux États-Unis, ça paraît c'est extraordinaire, mais c'est comme ça, vous avez des États qui, dans lesquels il y a très peu d'impôts. Et donc, les entreprises multinationales peuvent se réfugier à l'intérieur même des États-Unis. Donc, vous voyez, ce type d'anomalie suppose beaucoup plus, en fait, de volonté politique, mais disons que c'est une première avancée.
L'économiste Michel Aglietta avec Annabelle Grelier. Pour être tout à fait complet, j'ajoute ces révélations du Monde aujourd'hui même qui affirment que deux autres banques françaises sont touchées par les Panama Papers. Le Crédit Agricole a administré depuis les années 90 pas moins de 1129 sociétés offshore par l'entremise du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Et puis BNP Paribas a eu recours à 468 sociétés écrans. C'est du moins ce qu'affirment les journalistes du Monde. Un petit mot encore de la Lettonie, invitée à rejoindre à présent l'OCDE. C'est le signe que son gouvernement lutte activement contre le blanchiment d'argent et notamment contre le blanchiment de capitaux russes. La moitié des 26 banques commerciales lettonnes travaillent essentiellement pour des clients de l'ex-empire soviétique. À l'Est, toujours, le gouvernement polonais contre-attaque après la manifestation géante de samedi dernier. 240 000 personnes rassemblées à Varsovie pour défendre la démocratie, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les conservateurs ont donc décidé d'attaquer l'opposition. Bonsoir Bruno Cadenne.
Bonsoir Tara.
Ils annoncent une enquête parlementaire qui doit prouver, selon eux, que le précédent gouvernement centriste, a gaspillé l'argent public.
Quelques jours après la manifestation de l'opposition, vous l'avez dit, la plus importante de toute l'histoire post-communiste de la Pologne, et à 48 heures de la probable dégradation de la note souveraine de la Pologne par l'agence Moody's, alors que Standard & Poor's l'a déjà fait, le gouvernement conservateur tente d'allumer un contre-feu contre le gouvernement précédent. La première ministre Beata Szydło accuse la coalition des libéraux de la plateforme civique et du parti paysan au pouvoir pendant 8 ans d'avoir dilapidé des sommes considérables. Elle cite 77 milliards d'euros par égoïsme, mépris et gaspillage. Et la première ministre de cité de la TVA non entrée dans les caisses de l'État. Beata Szydło souhaite également une enquête parlementaire sur l'affaire de la pyramide financière Amber Gold, dont le procès se déroule actuellement à Gdansk. De 2009 à 2012, un couple est accusé d'avoir extorqué 200 millions d'euros à 19 000 clients. Pour la chef du gouvernement actuel, l'ancien pouvoir aurait dû surveiller plus efficacement la société Amber Gold. Eva Eva Kopacz, l'ancienne première ministre libérale, réplique en parlant de mensonges des conservateurs et demande à son tour une enquête sur des irrégularités par des proches du pouvoir actuel dans le réseau polonais des caisses d'épargne. Pour les dirigeants de la plateforme civique, l'explication à ces accusations de la part des conservateurs de droit et justice est simple. Tenter de faire oublier la contestation citoyenne et les lois controversées sur le tribunal constitutionnel et le contrôle des médias.
Merci beaucoup Bruno Caden. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Irak après cet attentat à la voiture piégée survenu près d'un grand marché situé dans un quartier chiite de la capitale. On parle à présent de 64 morts et de 82 blessés à Bagdad. L'explosion a été revendiquée par l'État islamique. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Les djihadistes signent donc ce nouvel attentat. Deux autres explosions se sont d'ailleurs également produites cet après-midi. Le I serait-il, ceci explique peut-être cela, serait en train peut-être de perdre du terrain en Irak.
Oui Tara. C'est au total trois attentats effectivement qui ont frappé Bagdad ce mercredi, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir, vous l'avez dit. Au moins 64 morts dans celui de ce matin, sur un marché de Sadr City, le grand quartier chiite, dans le nord-est de la capitale irakienne. Et au moins 17 autres victimes dans les deux autres explosions qui ont frappé cet après-midi un autre quartier chiite, Qasimiyah, ainsi qu'un quartier mixte, chiite-sunnite. Cela fait donc 81 tués au bas mot, le bilan définitif pouvant largement s'alourdir du fait des très nombreux blessés graves, plusieurs dizaines, qui sont également à déplorer. C'est la campagne d'attaque la plus lourde depuis le début de l'année en Irak, et contrairement aux attentats des derniers mois qui visaient directement des checkpoints de la police ou des convois de militaires ou de miliciens, ce sont directement des civils qui ont été visés par l'État islamique cette fois, lequel État islamique a au moins revendiqué l'attentat de ce matin à Sadr City. Des attentats qui peuvent être lus bien entendu comme autant de simples contre-attaques des djihadistes, les forces irakiennes reprenant du terrain à ces derniers lentement mais sûrement ces derniers mois. Le gouvernement irakien vient d'ailleurs d'annoncer que les djihadistes ne contrôleraient plus physiquement que 14% du territoire irakien, soit moins de la moitié du terrain qu'ils tenaient à l'été 2014 quand ils étaient au fait de leur puissance. Mais au-delà du principe de la contre-attaque en visant des civils, des chiites, les djihadistes ont cherché aujourd'hui surtout à provoquer en retour des représailles des chiites, des milices chiites, contre ce qui reste de sunnites dans la population de Bagdad. L'idée étant de pouvoir in fine présenter l'État islamique comme le seul et unique protecteur et défenseur des sunnites en Irak.
Merci beaucoup Eric Biegala. En bref, cette opération anti terroriste en Tunisie. La garde nationale a opéré une descente dans le quartier de Mnila, au nord-ouest de la capitale Tunis. 16 personnes ont été arrêtées et 2 terroristes présumés ont été abattus. Les terrorismes au Proche-Orient, la guerre en Syrie qui jette des millions de réfugiés sur les routes. Une réunion s'est tenue aujourd'hui à Vienne pour signifier que la brouille entre l'Autriche et la Grèce est maintenant terminée. L'ambassadrice grecque a retrouvé sa chancellerie à Vienne, en Autriche. Athènes n'avait pas du tout apprécié la fermeture presque total des frontières décrétées par les Autrichiens en tout début d'année, fermeture qui a bloqué des milliers de migrants en Grèce. Au Brésil, c'est une journée cruciale qui s'ouvre aujourd'hui pour Dilma Rousseff. Le Sénat doit voter théoriquement l'ouverture de la procédure de destitution de la présidente brésilienne. Les députés ont déjà acté cette déchéance. Il manque donc les voix des sénateurs pour enclencher son départ et le procès qui lui sera intenté pour avoir maquillé les comptes de la nation. À Brasilia, c'est un reportage signé Mathilde Lemaire.
2 heures de tractation sur les procédures et seulement après les sénateurs ont commencé les prises de parole à la tribune. 15 minutes maximum chacun, ils sont 81. Cela donne une idée de la longue journée qui se profile. Certains parlementaires sont très sévères avec la présidente. Comme cette sénatrice qui invoque Dieu, le pape, les 10 millions de chômeurs et qui dénonce une gestion calamiteuse du pays. Dilma a commis, dit-elle, un crime de responsabilité en maquillant les comptes publics. Elle doit être suspendue. Si, comme attendu, Dilma Rousseff est écartée, ce sera pour 6 mois. D'abord, le temps que le Sénat étudie en détail les accusations et scelle son sort définitivement. En attendant, et ensuite si nécessaire jusqu'en 2018, c'est le vice-président de centre droit, Michel Temer, ex-allié de la présidente devenue son ennemi, qui assurera l'intérim. Dans les rues de Brasilia, les habitants suivent cet interminable vote, un brin désespéré à l'image de Maria, professeure à la retraite.
Ces politiques irresponsables nous montrent un spectacle déplorable. Regardez ce que font ces gens riches. Pendant ce temps-là, les Brésiliens ordinaires souffrent. Dilma va tomber, mais ce vice-président n'est pas une solution, c'est une mauvaise personne. Il n'y en a pas un qui ne soit pas corrompu. Maintenant, il n'y a plus que le Christ pour sauver le pays.
Sur l'esplanade des ministères à 2 pas du Sénat, on s'attend ce soir à des manifestations, des pro-Dilma en colère, les anti-Dilma aux anges. Un mur grillagé a été dressé entre les 2 camps.
Mathilde Lemaire à Brasilia. Deuxième jour en France du procès des deux bourgmestres rwandais qui sont jugés en ce moment pour génocide. Les faits remontent à avril 1994 et les deux hommes qui se sont succédés à la tête de la localité de Kabarondo nient toujours les faits. Bonsoir Catherine Dutuche.
Bonsoir.
Vous étiez ce matin à l'audience où on a entendu pour la première fois s'exprimer l'un des deux accusés.
Tito Barahira, 64 ans, moustache et cheveux grisonnants. Il préfère s'exprimer depuis son fauteuil bleu à roulettes, fatigué par des problèmes de santé qui nécessite une dialyse trois fois par semaine. D'une voix calme, très détachée, Tito Barahira raconte sa vie dans les grandes lignes et parle en Kinyarwanda parce que je suis malade quelquefois, j'oublie des mots en français, explique-t-il pour justifier sa demande d'interprète. Son enfance, heureuse, avec des parents aimants qui lui ont permis de quitter les champs pour devenir enseignant. Tito Barahira apparaît mesuré, modeste même, pour expliquer la suite de son parcours. S'il trouve un poste au ministère de la Jeunesse à Kigali, c'est peut-être parce que le ministre lui-même était un ami d'enfance. S'il est nommé par le président du Rwanda, bourgmestre de la commune de Kabarondo, c'est qu'un colonel influent a pu intercéder en ma faveur, admet-il du bout des lèvres devant l'insistance de l'avocat général Philippe Courroy. Tito Barahira reste 10 ans à la tête de cette commune de l'est du Rwanda. En avril 94, quand le génocide éclate, il est devenu président communal du MRND, le parti au pouvoir. Avec ce titre et celui d'ancien bourgmestre, aviez-vous une autorité morale sur la population ? Demande la cour, puis l'avocat général Philippe Courroy. Non. Aucune ascendance. Aviez-vous des contacts avec les Interahamwe ? Interroge encore Philippe Courroy. Les Interahamwe étaient des mouvements de jeunesse affiliés au pouvoir, devenus miliciens sanguinaires pendant le génocide. Je ne les ai jamais vus à Kabarondo, affirme Tito Barahira, seulement à Kigali, la capitale. Un point crucial, puisque les magistrats instructeurs soupçonnent l'accusé d'avoir incité ces Interahamwe à tuer à Kabarondo en avril 1994.
Merci beaucoup Catherine Dutu. En Italie, ce sont les députés c'est une petite révolution dans ce pays très catholique, de donner un statut aux unions homosexuelles. Le texte a donc été voté par 369 députés italiens, 193 étaient contre. Les sénateurs avaient déjà entériné cette loi. Ce soir reste encore une série de votes tout à fait techniques, mais il est donc certain que cette réforme est passée. À Rome, Antonio Gallofaro.
L'Italie est en fête, comme s'en réjouit le président du Conseil italien, Matteo Renzi. La péninsule reconnaît juridiquement les couples homosexuels. Le jeune Premier ministre a réussi là où ont échoué Silvio Berlusconi ou encore Romano Prodi ces 10 dernières années. Le gouvernement de centre-gauche n'a pris aucun risque. Comme au Sénat il y a 2 mois, il a demandé la confiance des députés sur cette loi controversée qu'il a obtenue. Le texte a été approuvé par 369 voix contre 193. En Italie désormais, les membres d'un couple homosexuel peuvent choisir une résidence commune, partager un régime légal, bénéficier d'une pension de réversion. Mais contrairement à ce que proposait la première mouture du texte, il leur sera impossible d'adopter l'enfant naturel de leur conjoint. L'exécutif a dû céder devant ses alliés du centre droit, devant même des membres du Parti démocrate au pouvoir. Et surtout, devant la pression populaire, en début d'année, plusieurs centaines de milliers de personnes avaient manifesté contre cette loi dans les rues de la capitale italienne. Et dans ce pays catholique, il fallait aussi compter bien sûr avec l'Église. Les évêques italiens continuent de réclamer au gouvernement une politique familiale qui soit plus attentive à la famille formée d'un père, d'une mère et d'enfants.
Antonio Gallofaro à Rome. Comme promis, direction à présent la Croisette où s'ouvre le 69e Festival International du Cinéma. 21 films en compétition officielle. La Palme d'Or sera décernée le 22 mai prochain par le jury, présidé par le réalisateur australien George Miller. Aujourd'hui, c'est l'inauguration, place aux stars et aux tapis rouges. À commencer par l'équipe du film qui va ouvrir ce festival. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Tara.
Vous êtes en direct de Cannes où chaque soir à 18h, vous allez nous raconter ce que vous avez vu. Alors aujourd'hui, les yeux sont braqués sur le dernier Woody Allen, Café Society qui ouvre le bal tout à l'heure. Et c'est la troisième fois, Antoine, que Cannes fait cet honneur à Woody Allen.
Et oui, c'est comme un rituel ici, alors que la compétition cannoise commence seulement demain avec un film français, le très attendu Rester Vertical d'Alain Giraudy, premier des, en effet, 21 films et 22 réalisateurs, puisque les Frères Dardenne, déjà 2 fois palmés d'or, sont à nouveau de la partie sur les starting blocks pour succéder à Jacques Audiard sur la plus haute marche du palais. Le climat pluvieux est aussi un rien tendu sur la Croisette, le dispositif de sécurité s'affichant encore plus massif que d'habitude, menaces terroristes et état d'urgence oblige. Pour oublier tout ça, quoi de mieux finalement qu'un voyage dans le temps en direction le Hollywood de l'âge d'or. Ce 46e film de Woody Allen se déroule dans les années 30, une période souvent explorée par le cinéaste nostalgique, pour le meilleur parfois. Rappelez-vous La Rose Pourpre du Caire et Zelig. Café Society n'est pas sans lien avec ces deux films, puisqu'il y est question d'un amour impossible et de l'antisémitisme latent de la société américaine. Jesse Eisenberg, en clone de Woody Allen, sans doute le plus réussi de ses multiples doubles, joue un jeune juif new-yorkais parti tenter sa chance à Hollywood sous les auspices de son oncle, talentueux agent de star, mais renonçant par dépit amoureux aux strass et aux paillettes pour devenir le roi de la nuit new-yorkaise dans un de ses clubs où se fréquentaient milliardaires, gangsters, politiciens et jazzmen, la fameuse Café Society qui donne son titre au film. Kristen Stewart est charmante, en amoureuse indécise et très contemporaine. Tout Woody Allen est là, de la voix off littéraire qu'il endosse aux mots d'auteur bien tournés, le tout sur une petite musique de jazz. Pourtant, quelque chose ne prend pas. On a connu l'auteur plus incisif et mordant. Les très belles images, signées du directeur de la photographie italien Vittorio Storaro, celui d'Apocalypse Now et du 1900 de Bertolucci, reconstituent brillamment un fantasme de Hollywood et de New York années 30, mais s'avèrent souvent de plats clichés sur papier glacé, comme si Woody Allen éludait la belle idée amère de ce film, et si les plus belles histoires d'amour étaient celles qu'on n'a jamais vécues. Un film superficiel sur la superficialité, souvent plaisant, mais qui n'ajoute rien à la riche, longue et foisonnante filmographie allénienne.
Merci beaucoup Antoine Guillot à Cannes, et puis je vous renvoie vers notre site internet franceculture.fr. 5 raisons qui font de Cannes un festival politique en carte et en graphique. C'est un dossier réalisé par Camille Renard. Demain, beaucoup de pluie sur toute la France, notamment sur le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie. À 22h, ce sera le journal présenté par Raphaël Godet.